Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire de l'agriculture capitaliste en France du XVIIIe siècle à nos jours, avec notre invité William de la Critique de la Valeur. Et donc nous venons d'achever notre première partie qui portait sur la lente intégration de l'agriculture française au capitalisme de 1789 jusqu'aux années 1870 avant... Et puis juste avant, on avait fait également le contraste donc, entre l'agriculture d'ancien régime non capitaliste et l'agriculture capitaliste. Et donc maintenant, on va laisser plus abondamment la parole à notre invité William de la Critique de la Valeur pour nous parler de ses recherches et de sa synthèse, hein, disons, sur l'histoire de l'agriculture capitaliste en France des années 1880. Jusqu'aux années 1950, qui est donc finalement une histoire de la lente modernisation agricole française, avant l'accélération des années 60, mais qui pointe déjà quand même un certain... Mais oui, il se passe déjà un certain nombre de transformations fondamentales par rapport à la période antérieure, et on essaiera de rendre évidemment ça le plus clair possible, puisque évidemment le capitalisme se complexifiant, son analyse se complexifie également.
Du coup, sur cette période-là de 1890-1950, avant d'aborder, on va dire, les politiques de modernisation agricole de 1960, qui sont des politiques, on va dire, assez complètes, on va s'intéresser pas mal à la question de politique de crédit, parce que elles qui ont permis, on va dire, la modernisation agricole de 1880 jusqu'à après la Seconde Guerre, sur pas mal d'aspects, mais c'est bien entendu pas les seules politiques, mais elles sont, on va dire, elles ont un rôle assez central, et en plus elles permettent, on va dire, en les regardant, de regarder finalement les changements de rapport qui se passent entre la paysannerie, le secteur agricole, l'institution de crédit et l'État, voilà. Et effectivement, tu l'avais dit juste avant, en France, l'État a un rôle central dans le portage de la modernisation de l'agriculture, et c'est particulièrement frappant dans sa manière de gérer cette question-là du crédit en agriculture. Donc du coup, on va regarder ça peut-être un peu plus précisément. En 1880, on sort de la période de Grande Dépression, donc il y a eu une sorte de tentative de libéralisation du commerce entre la France et l'Angleterre, avec qui a créé une forme d'effondrement des prix en France, et on va dire une grande crise dans les campagnes, et du coup une sorte aussi là enfin, une manière de se rendre compte pour la France du fait qu'elle n'était pas du tout prête à ce choc économique, et notamment contre l'Angleterre. Mais il y a aussi d'autres pays, on va dire, dans la thèse de l'éternel retard agricole français, on va dire dans fin du 19e, début 20e, il y a, on va dire, d'autres agricultures plus compétitives en Europe, comme aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
Il y a même la Russie qui concurrence avec ses blés la France.
Donc, ouais. Et donc, du coup, effectivement, la France n'est pas prête, et du coup, ça va amener des politiques finalement protectionnistes, mais tout en fait protectionnistes vis-à-vis de l'extérieur, mais tout en maintenant on va dire, la logique de libéralisation interne et d'unification des marchés, etc. Donc, protectionniste à l'extérieur et libéralisation, continuation, perpétuation du processus de libéralisation à l'intérieur. Aussi, il faut noter que à cette période, il y a aussi ces suites aussi politiquement à l'extension du suffrage à beaucoup plus de catégories. Donc il y a une intégration, on va dire, dans la démocratie de plus en plus de sujets. Donc du coup, la figure du paysan devient un sujet politique à part entière, avec le droit de vote, et que du coup on va aussi choyer, et qui aura un rôle électoral aussi. Mais sous tutelle, on va dire, un rôle électoral, mais sous tutelle, avec l'émergence en 1880 aussi du ministère de l'Agriculture. Donc, avant, les questions agricoles étaient gérées par le ministère de l'Intérieur ou du Commerce. Donc un ministère spécifique, dédié à l'agriculture, associé donc à des lois protectionnistes sous donc Jules Méline à l'époque, et la mise en place... Et du coup, le début d'une constitution politique de l'agriculture familiale, après les structures de tutelle de la paysannerie, Ce sera du côté républicain, le parti radical notamment, le premier parti politique officiel bon, qui va émerger en 1901, mais qui va s'accaparer pas mal en fait des structures d'encadrement de l'agriculture. Donc, et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le paysan reste quand même sous la tutelle soit des républicains radicaux, et soit du clergé, ou un peu des deux, mais n'est pas complètement sujet politique autonome, et il va le devenir pendant la période de forte modernisation, donc plutôt après la Seconde Guerre mondiale, et là ce sera donc plutôt des, plus vraiment des paysans, mais des agriculteurs, des exploitants agricoles qui seront à la tête de leurs propres outils et qui seront en co-gestion avec l'État, quoi. Donc voilà, il y a un long développement aussi, il y a construction politique particulière. Donc du coup l'agriculture est très scindée entre un agrarisme, donc on a parlé là d'une paysannerie très agrarienne, donc rattachée on va dire aux valeurs traditionnelles rurales, plutôt conservatrices, etc. Mais il y a un agrarisme de droite, un agrarisme de gauche qui sont un peu dans une fausse opposition parce qu'ils partagent en fait pas mal de choses, mais l'agrarisme de droite lui sera plutôt on va dire catholique, et on va dire la forme symbolique ce sera la société des agriculteurs de France, la SAF, qui a été mise en place au milieu du 19e siècle, et parallèlement voilà il y a il y a le pendant républicain voilà, qui s'installera à boulevard Saint-Germain à Paris, voilà, et l'autre boulevard d'Athènes, et on a tendance à parler de boulevard d'Athènes, rue d'Athènes versus boulevard Saint-Germain, qui sont en fait donc les deux configurations de l'agrarisme en France. Donc je disais en 1880, donc il y a la mise en place des caisses de crédit agricole, alors qui vont permettre en partie la modernisation en gros de l'agriculture, mais qui ne vont pas être très utilisées finalement. Enfin, avant, on va dire plutôt les années 20-30, quoi. C'est encore quelque chose de marginal. Mais ça permet, on va dire, de favoriser la modernisation des exploitations. Mais finalement, au début, le crédit, il sert surtout. Il y a du crédit un peu de long terme pour acheter des terres, éventuellement, et il y a du crédit de court terme qui sert pour des avances sur des récoltes ou enfin, des avances avant récolte ou avant la vente des récoltes, etc.
Donc, c'est pas un crédit de modernisation.
C'est pas un crédit, on va dire, de modernisation de l'équipement rural. Et ça va être aussi très, 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 très progressif, comme on va le voir. Et pareil, sa vraie explosion, c'est plutôt après 45. Et donc, c'est pas les années 60, c'est vraiment voilà, après la Seconde Guerre, là, pour le coup, que là, on va avoir un crédit qui va être beaucoup plus orienté vers l'équipement, la modernisation, et puis aussi le package technologique, chimisation, tractorisation, et puis surtout variété aussi à sélectionner à haut rendement, puisqu'on sort des logiques de sélection endogène à la paysannerie au niveau des semences. Donc il y a aussi progressivement une extériorisation du processus de sélection qui va se passer, qui pareil est antérieur en Angleterre. Et donc, du coup, on a en gros l'État qui voit que ces caisses rurales, elles vivotent, elles fonctionnent mal. Alors, pourquoi ce qui a été adopté, finalement, en fait, l'agriculture, elle est difficile à moderniser quand elle part de ce stade-là qu'on a un peu décrit. Et le mutualisme, enfin, le crédit mutualiste, va être la forme un peu adéquate pour pouvoir. Parce qu'en gros, on peut. Dans le crédit, il y a trois formes, on va dire, archétypales. Il y aura le crédit d'État, quelque chose de 100% public. C'est ce qui a été tenté sous Napoléon III, pardon, et qui a plutôt été d'ailleurs un échec, le crédit foncier, etc. Il y a une forme, on va dire, complètement 100% commerciale, qui était assez adéquate pour, on va dire, l'agriculture qui était déjà un peu plus modernisée dans le nord de la France, dans le bassin parisien. Et il y a le mutualisme, qui est plutôt d'ailleurs émergé en Allemagne, et qui du coup a cet avantage de pouvoir financer une activité un peu spécifique qui est l'activité agricole, qui, contrairement à l'activité industrielle, peut connaître des difficultés climatiques, peut voilà, connaître des mauvaises récoltes, des plus grandes fluctuations des prix, etc. Donc elle n'est pas facile à financer, et par ailleurs, elle est reculée des circuits financiers classiques qui sont très concentrés sur les milieux urbains. Donc du coup, le mutualisme, il a aussi ces avantages-là, qu'il repose sur des forces bénévoles, locales, qui gèrent la collecte et la mise à disposition de crédit. Enfin voilà, c'est un peu la forme de pénétration assez intéressante du crédit en milieu rural. Mais ça a très bien marché en Allemagne, en fait, où l'agriculture était un peu plus modernisée et un peu plus monétarisée. Et donc, du coup, ça a pu marcher de manière autonome, cette forme mutuelle. Et en France, on a eu une forme hybride avec l'État, une vraie hybridation. Donc, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose 100% comme, enfin, c'est un peu la spécialité de la France de jamais faire quelque chose de 100% public ou 100% privé, mais quelque chose un peu à cheval et qui est une forme d'hybridation et de synthèse. Et donc, du coup, là, ça s'est pas mal illustré sur la question du crédit, avec du coup la formalisation enfin, réelle et formelle, c'est en 1920, avec la mise en place de la Caisse nationale de crédit agricole, qui est une structure. Qui est en lien très direct avec le ministère de l'Agriculture à l'époque, hein, donc c'est pas le Crédit Agricole actuel qui est une structure privée autonome, etc. C'est voilà, c'est quelque chose qui est vraiment impulsé par l'État. Et jusqu'en 1910, 75% des ressources de crédit à l'agriculture sont pas de la collecte d'épargne locale, parce qu'en fait on n'y arrive pas à collecter assez de ressources pour jouer ce rôle moteur de modernisation. Donc il y a 75% des ressources qui viennent de l'État. Mais elles donnent le sentiment d'être des ressources locales, puisqu'elles sont distribuées localement et que du coup on en fait peut-être, on en prend plus grand soin que si c'était du crédit d'État qu'on pourrait vite confondre avec de la subvention. Donc voilà. En gros, ça se met en place comme ça, avec une tutelle républicaine très forte. Donc c'est souvent les présidents des caisses sont des républicains radicaux qui sont parfois au Sénat aussi, etc. Et donc voilà, ça permet déjà un premier, on va dire, renforcement de modernisation de l'agriculture jusqu'à 1914. Après, il y a 14-18, donc qui est quand même un grand chamboulement de l'agriculture, dans le sens où enfin, il y a énormément de paysans qui vont aller sur le front pendant 14-18, et donc du coup une forte forte déstructuration du tissu rural. Les femmes en fait qui étaient restées sur les fermes se sont occupées de beaucoup de choses. Ça a dû même un peu effriter un peu le patriarcat à ce moment-là, de se rendre compte que finalement les fermes étaient très bien tenues par les femmes. Il y avait même après 14-18 tout un tas de cérémonies et de on va dire de mise en spectacle un peu du fait que les femmes avaient pu tenir le monde rural pendant la Première Guerre mondiale. Après, il y a aussi un questionnement politique qui a lieu dans les enceintes à ce moment, enfin après la guerre de 14-18, c'est-à-dire un peu ces questions des physiocrates de 1760 que tu évoquais tout à l'heure, elles reviennent à l'ordre du jour. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'on ait une agriculture capitaliste, donc notamment dans l'Académie d'agriculture? C'est des débats qu'il y a entre politiciens et l'Académie d'agriculture. Il faudrait pas qu'on ait une agriculture capitale, deux capitaux, avec voilà, des fermiers capitalistes, plutôt qu'une agriculture familiale sur laquelle le modèle français se repose et qui va être le modèle politique en 1950, c'est-à-dire le modèle de le paysan propriétaire, producteur de petite production marchande agricole, quoi, qui va vraiment, et comme on le disait, qui permet de maintenir un tissu rural aussi pour éviter de concurrencer finalement l'industrie qui n'est pas aussi développée qu'en Angleterre ou dans d'autres pays, et qui du coup permet de maintenir à peu près la population rurale, quoi.
Et qui stabilise l'ordre social.
Et qui stabilise l'ordre social, effectivement. Et du coup, donc il y a ces débats qui ont lieu après 14-18, en se disant que finalement, le fait enfin, c'est dangereux déjà d'envoyer tous les paysans à la guerre, parce que enfin, finalement, le rôle du paysan comme chair à canon n'est pas idyllique. Donc il y a une remise en cause de ça, et de se demander si on ne peut pas avoir des très grosses structures capitalistes, etc. Mais le débat est assez vite évincé. Mais c'est marrant de noter qu'il se repose. Le débat est à nouveau posé,
Récurrent, ouais.
Récurrent, et notamment après là un trauma particulier qui est la guerre de 14-18. Et donc là, c'est les années 20, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la modernisation aussi du crédit avec du coup la Caisse nationale de crédit qui se met en place et qui du coup là va connaître un recours un peu plus fort, et une modernisation de l'agriculture qui augmente pendant cette période et qui va être un petit peu ternie par la crise de 29. qui va pas arriver en 29 en France et encore moins dans les campagnes, mais par contre qui va s'étendre sur la période, on va dire 1930, 1935, où là on a une baisse des revenus agricoles. Voilà, il y avait un économiste avec une approche un peu historique qui avait fait des calculs qui est de l'ordre de 30%, quoi, 30% de baisse des revenus agricoles. À ce moment-là, et qui du coup va amener à un questionnement, et là donc il y a l'émergence parallèle du Front Populaire, la fin de cette période.
Sur laquelle on a fait une émission d'ailleurs.
Mais donc du coup qui vont instaurer la politique du blé. Donc ça aussi, là on va dire qu'on a un début de politique agricole au sens où on pourrait l'entendre, dans le sens où on n'a pas juste enfin au niveau économique, hein, j'entends pas. Après, il y a d'autres aspects des politiques agricoles ou de choses qui sont mises en œuvre dans les campagnes, notamment sur la question de la formation, etc. Mais là, j'aborde effectivement plutôt les aspects économiques. La politique du blé sera mise en place en 1936, mais elle est trop, je pense, souvent mise en avant, enfin, au niveau des analyses et historiques, elle est trop souvent mise en avant comme la révolution politique qui a permis de restabiliser le secteur agricole. Elle est associée à un renforcement du mouvement coopératif dans les années 30 aussi, donc les coopératives agricoles qui sont... Qui se développe aussi beaucoup pendant cette période-là. Et en fait, moi, je reviendrai un peu plus tard sur le fait qu'il y a aussi, au niveau du crédit, quelque chose qui se passe et qui est beaucoup moins raconté, qui est la révolution financière de l'État, notamment en 1942, et en l'occurrence sous Vichy. Et donc ça, je reviendrai sur cet aspect-là, mais il est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la politique du blé, effectivement, face à la crise des revenus de l'agriculture, etc. Il y a une logique qui se met en place qui s'appuie sur les deux marchandises agricoles principales, qui sont le blé et le vin, parce que en fait il y a une dépendance de tout un tas de régions en France autour de ces deux marchandises particulières, voilà, qui sont un niveau de marchandisation, on va dire, élevé. Et donc, du coup, ça va être, en gros, s'appuyer sur les coopératives de vin ou coopératives de blé, pour, on va dire, faire en sorte que les agriculteurs arrêtent de vendre tout de suite leur production au premier prix qui se présente. Et donc, du coup, une forme de proto-régulation, proto-état social, proto-état-providence, plutôt, qui se met en place et qui est, on va dire, le fruit d'une cohabitation politique entre l'État, les coopératives, les systèmes de crédit et la paysannerie. Et donc, du coup, finalement, les coopératives s'occupent des stockages, éventuellement gèrent aussi les avances auprès des paysans pour pas qu'ils soient obligés de vendre tout de suite, et la coopérative vendra un peu plus tard avec un système de prix garanti. Donc du coup, il y a une espèce de sauvetage. Et,
qui rappelle un peu la PAC, pour le coup.
Qui rappelle un peu la PAC. Voilà, il y a un peu un proto-PAC, mais c'est à l'échelle nationale. Et là, parce que finalement, on est encore sur des volumes de production à l'époque qui sont en large correspondance avec l'espace national. Et la PAC, finalement, c'est oui. Effectivement un peu ce système-là, mis à un moment où la productivité de l'agricole est plus grande. Et par ailleurs, il y a l'idée d'intégration économique européenne élargie. Donc du coup, on fait ça à l'échelle de l'Europe, quoi. Donc du coup, il y a cette politique-là qui est mise en place et qui va effectivement permettre de largement assurer la survie des exploitations agricoles. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de succès économique sur certains aspects, et c'est aussi un grand moment de bancarisation de la paysannerie. Donc du coup, et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les paysans ont été en fait bancarisés beaucoup plus tôt que pas mal de professions indépendantes, les épiciers, etc., sur certains égards, par cette politique-là. Même si elle s'adresse effectivement plus spécifiquement aux céréaliers, mais ça a touché quand même beaucoup de structures agricoles à ce moment-là. Peut-être que tu voulais rajouter des éléments sur la période d'entre-deux-guerres.
Oui, je pense que c'est important parce que finalement, la période quand même de Vichy et de, elle marque quand même une rupture et puis une période qu'il faut aborder de manière un peu spécifique. Et je pense que c'est pas mal quand même d'avoir fait ce premier, cette espèce d'horizon qui correspond en fait à la Troisième République. 1880, c'est considéré comme la date vraiment d'affermissement de la Troisième République, et 1940, c'est sa fin. Donc j'aurais bien voulu revenir sur un certain nombre de points qu'on trouve notamment dans le tome 4 de l'histoire de la France rurale, qui est pas mal pour le coup, contrairement au tome 3 qui est vraiment mauvais pour le coup, enfin qui est très dans l'agriculture française est en retard, il faut moderniser, alors que l'histoire de la France rurale, le tome 4 est quand même un peu plus nuancé, un petit plus fin là-dessus. Et quand même tout un tas de phénomènes dont on n'a pas trop parlé, enfin disons ça va être complémentaire parce que toi tu as insisté beaucoup sur les aspects économiques, j'aimerais bien revenir sur un certain nombre d'aspects plutôt sociaux et politiques. Donc tout d'abord, la Grande Dépression, ça marque aussi un déclin accéléré jusqu'en 1914 de la grande propriété rentière. Il va y avoir un déclin de justement la France des notables, c'est-à-dire ces grandes propriétés rentières. Qui sont beaucoup d'origine aristocratique ou de la vieille bourgeoisie qui n'a pas su quand même s'intégrer un peu plus au marché capitaliste, va commencer à s'effriter. Donc là, on parle évidemment pas des grandes exploitations modernes de l'Île-de-France. On parle plutôt des grandes concentrations foncières aristocratiques ou bourgeoises d'ancien régime qui vont pas réussir à prendre le train de la modernisation, même si ce train il est assez lent, hein, comme on a
Juste
vu.
pour faire le lien avec le crédit, ce qui est intéressant, c'est que aussi l'arrivée des caisses de crédit au milieu rural, c'est perçu comme la possibilité de s'émanciper voilà, du joug de certains grands propriétaires et des logiques, on va dire,
Usurière, oui.
usurières voilà, vis-à-vis des prêts monétaires, etc. Donc du coup, il y a vraiment cette idée d'autonomie et de prise du contrôle du destin économique. Des paysans, voilà. Donc effectivement, ça, c'est une modernisation qui passe pas forcément par les grandes structures, mais plutôt par les structures du milieu, on pourrait dire, et qui sont pas en position. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça s'observe un peu de la même manière en Russie, avec les koulaks, etc., qui finalement vont pas être les formes agricoles qui vont enfin, permettre la modernisation, qui eux aussi étaient dans cette même position, on va dire. Donc en fait, il y a un évancement du haut et un évancement du bas. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de terre, effectivement,
Sont
ils
éliminés.
sont éliminés. Et les grands propriétaires, finalement, sont pas non plus, vont pas forcément être les acteurs de la modernisation, notamment par cette logique un petit peu quasiment résidu féodal sur certains aspects en termes de rapports voilà,
Sociaux. Oui,
sociaux, voilà.
c'est important de dire, je trouve que c'est bien, bien, bien schématisé, c'est-à-dire que la Grande Dépression, ça va être à la fois. Donc une dépression des rentes, des vieilles rentes. Du coup, les sources monétaires de ces vieilles familles s'effondrent. Et donc, ils vont progressivement être obligés de vendre en petits morceaux leurs terres, qui ne peuvent être achetées que par des paysans moyens, entre guillemets, par cette couche intermédiaire dont tu as parlé, et qui va être en fait le noyau de la paysannerie française jusqu'à nos jours, mais enfin, disons, presque, hein. Mais par contre, la Grande Dépression va quand même épurer beaucoup la petite paysannerie. Et d'ailleurs, ce qui va faire que... Il va y avoir un exode rural quand même, il faut parler de ce phénomène. Il va quand même y avoir un exode rural, mais très très lent, très progressif, qui va se faire uniquement par le bas. Alors que par exemple en Angleterre, on avait liquidé toutes les couches de la paysannerie, à part les couches vraiment supérieures qui avaient pu se transformer en fermier capitaliste. Alors que là, c'est juste la couche inférieure. Et aussi, évidemment, avec le système de partage des terres, les cadets qui parfois vont travailler en ville. Donc finalement, le système français permet d'avoir juste ce qu'il faut de prolétaires, mais pas trop. Parce que de toute façon, ils n'en ont pas besoin de plus. Et tout ça, ça a évidemment des incidences politiques, puisque évidemment, 1880, l'affermissement de la Troisième République, c'est la fin de la France des notables, c'est-à-dire c'est la fin de la domination politique sur les campagnes de ces bourgeois d'Ancien Régime et de ces aristocrates qui vont perdre leur importance politique avec la restauration monarchique n'est plus possible, évidemment c'est ça leur idéal politique, c'est la restauration monarchique. Et donc finalement ils vont être dans un déclin politique, social et économique, toutes ces classes. Et donc là on voit qu'on est je pense qu'on est au bout du processus, on voit que le cas de la France et de l'Angleterre est radicalement, se pivote radicalement, puisque la noblesse anglaise a su se reconvertir en grande partie en capitaliste qui fait qu'aujourd'hui encore la noblesse du XVIIe siècle est encore propriétaire d'une grande partie du sol anglais, alors qu'en France ils ont perdu toutes leurs terres très progressivement, sauf ceux qui ont réussi à se reconvertir en capitaliste, c'est-à-dire une toute petite minorité. Donc on voit vraiment qu'on est, dans des schémas qui sont vraiment très différents. D'autre part, en termes de sujets politiques, la paysannerie, effectivement, comme tu l'as dit, joue un rôle, une base électorale très forte, donc du parti radical notamment. Mais c'est un sujet politique qui est largement idéologisé. C'est-à-dire, on a des représentations, la France éternelle et tout ça, mais justement pour empêcher effectivement le paysan de devenir une figure autonome. Et on retrouve évidemment ces mécanismes. C'est là où Vichy n'est pas tant une rupture que ça par rapport à la Troisième République. Ça reste une figure idéalisée, conservatrice, alors que c'est là où, après 1945, ça a beaucoup changé, où la paysannerie va commencer à se constituer. Voilà, des syndicats propres, vraiment une dynamique va s'imposer comme un acteur. Mais je nuance tout de suite ce que j'ai dit, parce qu'il y a quand même la paysannerie, malgré tout, ne reste pas inactive. Et là, on pourra donner l'impression d'une espèce de paysannerie qui est intégrée progressivement au marché capitaliste sans se révolter. Je donnerai un exemple quand même du fait que cette intégration, elle a pu y résister et de manière relativement anticapitaliste, même si évidemment, c'était simplement pour préserver le stade où elle était. Hein, évidemment, c'était pas dans une optique révolutionnaire, mais je citerai quand même la révolte des vignerons de 1907, qui est quand même une révolte assez importante dans le sud de la France, près de Montpellier. En fait, la libéralisation du commerce du vin, parce qu'évidemment, le sud est très viticole, va entraîner donc la concurrence donc des vins italiens, qui vont entraîner d'importants problèmes pour les vignerons du sud. Et c'est tout le tissu social est lié à ça, les familles sont liées à ça, donc c'est la catastrophe. Il y a des faillites en cascade, et donc il va y avoir une révolte très très forte des vignerons. Évidemment, qui est aux manœuvres, c'est le parti radical, Georges Clemenceau, connu pour ses répressions aussi du mouvement ouvrier en 1908, en 1906. On en a parlé dans une émission avec Guillaume d'Avranches, et qui va envoyer évidemment l'armée, et notamment le fameux 17e régiment de ligne qui va se révolter, qui va refuser de tirer sur les vignerons, parce que c'est le modèle de répression à l'époque des révoltes agricoles n'est pas très adapté, hein, parce qu'ils envoient des gens qui habitent pas très loin, qui sont des conscrits et qui sont pas... aujourd'hui c'est plus efficace, il y a une police professionnelle pour réprimer. Et donc voilà, ça va être la fameuse chanson du 17e. Donc on voit quand même qu'il y a des résistances à cette modernisation. Mais cette modernisation quand même elle se fait quand même largement, même dans des espaces qui étaient un petit peu marginaux jusque-là. Ça, c'est la thèse notamment de Eugène Weber. Et en fait, dans ce livre, il explique comment est-ce que la République, à travers des institutions de crédit dont tu as parlé, l'école, le maire, le réseau de chemin de fer, va réussir à intégrer, disons, ce qui était plutôt des périphéries. Alors évidemment, ils n'intègrent pas les montagnes, hein, mais ils intègrent quand même pas mal, par exemple le Midi, l'Ardèche, toutes ces zones qui étaient un petit peu marginales, qui n'étaient pas très intégrées au marché capitaliste et à l'État de manière générale. Hein, ce qui fait qu'il y a des révoltes très fortes dans l'Ariège encore au milieu du 19e siècle, hein, ben, la guerre des Demoiselles justement. Il va y avoir une intégration progressive au marché capitaliste et à la France. Ce qui fait qu'il va y avoir quand même une transformation du sujet politique de la paysannerie. Auparavant, qui était un sujet pensé comme français, mais en réalité, la plupart des paysans ne parlaient pas français au 19e siècle. Mais progressivement, il va y avoir des paysans qui parlent français, qui parlent très bien français, qui vont savoir signer en français, qui vont être formés à l'école de la République. Et donc, il va y avoir une espèce d'homogénéisation culturelle de la paysannerie pour en faire des sujets nationaux. Ce qui fait qu'on parle de nationalisation des sociétés, notamment Gérard Noiriel. Et je voudrais revenir sur un dernier aspect qui est peut-être un peu plus anecdotique, qui est au niveau économique. Durant toute cette période, donc qui est marquée par des transformations comme l'électrification, l'objectif principal n'est pas, comme à la période suivante, d'être, et c'est ça, c'est une grande différence, n'est pas d'être compétitif sur le marché international ou européen, et qui va induire plein de transformations structurelles. L'objectif principal, jusqu'aux années 50 comprises, et c'est là quand même la rupture des années 60, c'est de nourrir la France. Le principal objectif, ouais, c'est de nourrir la France et de cesser d'importer du blé de Russie et de partout ailleurs. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à souligner.
Effectivement. Et après, on verra d'ailleurs notamment les niveaux d'exportation de céréales qui passent, on va dire, de 2 millions de tonnes dans les années 50 à 17 millions de tonnes dans les années 80, voilà, donc il y a effectivement une explosion la production, mais sur certains sur
C'est mort.
certaines voilà sur certaines marchandises agricoles en fait. Et du coup ça, parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des importations qui continuent massivement.
Mais là, du coup, peut-être pour parler justement des transformations sous Vichy et l'Allemagne, c'était un aspect qui était relativement méconnu parce qu'on a longtemps eu dans l'historiographie française et même de manière générale dans les milieux politiques l'idée que Vichy c'était finalement un truc obscurantiste c'était quasiment le retour au 19e siècle, les vieux agrariens et tout ça. Et en réalité, Vichy, c'est effectivement pour partie un mouvement réactionnaire. Mais comme le fascisme, même si c'était pas un mouvement fasciste, là, il faut bien distinguer les deux, puisque c'était un mouvement beaucoup plus conservateur hein, que le fascisme, qui avait une vocation un peu plus révolutionnaire, et là, pour le coup, pas dans le bon sens, évidemment.
Régressive.
C'est ça, révolution nationale,
Ouais.
voilà, pour le coup. Vichy a quand même tenté de moderniser l'agriculture, entre autres, et ça, c'est notamment quelque chose qui avait été déjà mis en avant par l'historien Robert Paxton, premier historien qui a vraiment travaillé sur Vichy et qui a montré qu'il y avait quand même une fraction de Vichy qui était des technocrates agricoles qui ensuite vont être repris par la 4ème République. Alors, n'oublions pas que Vichy, ils ont créé des grands organismes comme l'INSEE. Vichy, on n'a pas complètement rompu avec Vichy sur plein d'aspects et principalement sur ces aspects modernisateurs. Et là-dessus, justement. Des historiens comme Christophe Bonneuil et aussi ses étudiants et étudiantes travaillent pas mal à une relecture de la période vichyste comme une tentative, pour partie une tentative de modernisation de l'agriculture au niveau des semences. Évidemment, ça cadre bien avec le paradigme de la pureté raciale, de faire des semences pures. Voilà, pures, donc ça veut dire qu'ils vont être confiés à des sélectionneurs. Donc là, on arrive sur une division capitaliste du travail. On n'est plus sur l'antique. Entre guillemets, l'antique semence paysanne que le paysan reproduisait et sélectionnait lui-même. On arrive sur vraiment une sélection scientifique, entre guillemets, mais du coup qui dépossède quand même la paysannerie de ce pouvoir-là. Et puis on a aussi, dans une grande partie de ce qu'on a appelé Lost Land, c'est-à-dire dans l'Est et dans l'Est de la France qui est annexée par le Reich et dans la zone militaire réservée des Ardennes, il y a des tentatives de modernisation allemande. Nazis de l'agriculture française avec l'importation de leurs méthodes de l'Allemagne de l'Est avec des grandes propriétés foncières, une tractorisation systématique, l'usage massif d'engrais chimiques. Hein.
Bah, c'est vrai que ça c'est important, c'est que l'Allemagne, son rôle dans les engrais chimiques est assez important parce que finalement il y a aussi une espèce d'histoire comparée à avoir entre l'Allemagne et l'Angleterre où l'Angleterre, par on va dire, son extension géopolitique, bénéficiait d'intrants comme le guano pendant tout le 19e siècle ou les phosphates qu'ils importaient qui du coup augmentaient la productivité de manière très conséquente pendant le 19e siècle. En Angleterre et en réaction, l'Allemagne qui n'avait pas du tout tous ses territoires à disposition a été aussi l'inventeur du procédé Haber-Bosch, donc du coup qui est une synthèse chimique pour la production d'engrais et est liée en fait à la configuration un peu géopolitique, mais qui va avoir un fort rôle aussi dans la modernisation, enfin la modernisation de l'agriculture allemande et qui effectivement sera plus performante que l'agriculture française dans l'entre-deux-guerres, quoi.
Ce que pensent donc Bonneuil et ses élèves, parce qu'ils ont essayé de montrer, c'est que l'agriculture allemande va quand même avoir un impact sur. Enfin, disons que on a eu tendance à réduire la chimisation massive de l'agriculture française et sa tractorisation massive dans les années fin des années 40, années 50, à uniquement une imitation du modèle soviétique et du modèle américain. Mais en réalité, qui est de Vichy et des technocrates qui vont rester sous la 4ème République, en réalité, il y a aussi le modèle allemand qui est en tête et qui a été tenté en France, qui va évidemment pas avoir le temps de se développer énormément puisque ça va durer que 3 ou 4 ans, mais qui va quand même laisser un imaginaire avec une agriculture ultra rationnelle, chimique et tout ça, qui va quand même jouer un rôle. Même si on ne dit pas que c'est ça, qui c'est pas non plus l'agriculture de la 4ème République, c'est pas une agriculture nazie. C'est pas le but de dire ça. Mais quand même, il y a 40-44, c'est pas une parenthèse dans la modernisation. C'est plutôt une période où il y a une autre tentative de modernisation qui se fait et qui va quand même avoir un impact sur l'après-guerre.
Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, la politique du blé, donc menée par la gauche en France, par le Front populaire, parallèlement, dans la même période en Allemagne, il y a aussi une politique de régulation sur les marchandises agricoles principales, qui est, on va dire, du même acabit, quoi, qui a été du coup là mise en évidence notamment par François Vatin dans un ouvrage plus sur le lait, mais qui voilà, met un peu en parallèle les deux politiques qui se mettent en place en Allemagne, en France, et aussi qui sont un peu le proto-État, État-providence aussi à certains égards, quoi, en termes d'intervention sur le marché, etc.
Bah bien sûr, c'est une période de manière générale. Évidemment, l'agriculture s'inscrit toujours dans les transformations générales du capitalisme. Et là, clairement, c'est une étatisation du capitalisme dans les années 30 qui est quand même très forte en réaction à la crise de 1929. Et d'ailleurs, c'est une étatisation qui va se poursuivre dans l'après-guerre, dont on n'a pas encore parlé, qui marque quand même une rupture hein, avec la configuration d'avant-guerre, puisque là on doit nourrir la France, évidemment on repart en 45 avec le rationnement, donc il y a l'idée qu'on doit nourrir la France, mais en réalité ça c'est bon, c'est pas un prétexte seulement, mais c'est uniquement une dimension de la question. En réalité, il y a la volonté de faire que l'agriculture française devienne exportatrice sur le marché mondial et éventuellement, on en reparlera après au moment de la PAC, mais en fait, dès 1945, fin des années 40 plutôt, il y a des tentatives qui ne vont pas marcher jusqu'au 62 de créer un marché agricole européen. Pour justement stimuler l'objectif quand même de tous ces modernisateurs de la 4e République, qui vont avoir beaucoup moins de succès que ceux de la 5e d'ailleurs, c'est de moderniser l'agriculture française pour qu'elle devienne une agriculture compétitive au niveau international, exportatrice, et donc du coup là on change de dimension, on n'est plus sur la dimension de la 3e République de « elle doit nourrir la France », là il faut qu'elle exporte internationalement, qu'elle devienne une grande puissance agricole
Ouais,
mondiale.
mais du coup je reviens sur la période de Vichy, sur ce qui se passe justement au niveau du crédit qui va permettre finalement de mettre ça en œuvre parce qu'il faut quand même des ressources. Et en l'occurrence, à ce moment-là, en 1942, donc par les technocrates sous Vichy qui finalement ont servi le régime ont mis en place une forme d'ingénierie financière particulière, il y a eu progressivement, il y a une baisse des ressources qui viennent directement de l'État et qui peuvent abonder le crédit pour sa modernisation. Et après, il y a bah, finalement le gros choc de la modernisation agricole, c'est pas la politique du blé. Ça a permis de stabiliser l'agriculture en période de crise, parce que sinon elle allait vraiment dans une crise très profonde. Et en l'occurrence, peut-être la distinction aussi par rapport à l'Angleterre, c'est qu'en France, il y a 37% des emplois avant la guerre qui sont agricoles, quoi. Donc du coup, il y a cette crispation sur l'agriculture et son sauvetage via la politique du blé, etc. C'est aussi parce que c'est une des ressources principales pour l'État via la fiscalité. Enfin, pas principale, mais c'est une ressource, on va dire, qui est pas du tout... Enfin, qui est assez importante et très clairement, du point de vue politique, il y a une crainte que l'économie agricole ne puisse plus rien prélever dessus, quoi. Donc voilà, donc il y a une stabilisation, révolution financière, avec notamment au niveau du crédit agricole, la mise en place des bons à 5 ans. C'est un moment aussi où l'État est en pleine mutation et il va finalement se financer massivement par l'anticipation d'économies futures, donc par l'émission d'obligations d'État, avec la Banque centrale aussi qui prend un nouveau rôle à ce moment-là, parce que le marché interbancaire ne marche plus, par exemple, dans les années 30. Et donc, du coup, là, la Banque centrale qui va émettre massivement des obligations, et au niveau du crédit en agriculture, va prendre la forme du bon à 5 ans, qui va permettre de capter, et notamment après la guerre, parce qu'il y a eu beaucoup de marchés noirs, finalement, pendant la guerre, qui fait qu'il y a pas mal d'épargne, finalement, rurale, malgré les difficultés. Qu'il y a pu avoir, et donc du coup, cette épargne va être captée par ces bons qui ont l'avantage d'être anonymes, donc ça, les agriculteurs préfère. Et donc, du coup, il y a une sorte de, voilà, de captation de l'épargne rurale à travers ces bons à 5 ans qui vont avoir un double effet, c'est de financer l'industrialisation massive via les obligations d'État pour enclencher finalement le processus, on va dire, de modernisation de l'industrie. Parallèlement, fordiste, et donc pas que de l'agro-industrie, mais toutes les formes d'industrie, et puis les barrages, l'intensification de l'électrification, etc. Donc du coup, il y a ça d'un côté, et parallèlement, ça permet de générer des ressources qui sont garanties en plus à 3%, et donc une épargne rémunérée qui va servir de ressources et qui va faire que le crédit passe de 6 milliards en 44 à 999 milliards en 59. Donc du coup, on va dire que un fort mouvement aussi qui est avant la politique de 60 et qui passe par un rôle de l'État distinct et du coup une intégration aussi de l'agriculture dans l'agro-industrie effectivement qui se renforce à ce moment-là et après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture aura, on va dire, de manière beaucoup plus explicite, à la fois le rôle de consommateur d'intrants, de consommateur de tracteurs, de pourvoyeur de main-d'œuvre, parce que ça va générer des forts évincements. On est encore dans le modèle petit propriétaire au milieu rural, vendeur de production marchande, mais il est en train de ce modèle est en train de basculer dans la période 40-60. Et l'agriculture aura un rôle de pourvoyeur de matières premières pour l'agro-industrie aussi, de plus en plus, qui est en plein essor, là, en l'occurrence, après la Seconde Guerre, quoi.
Et je voulais juste faire un petit point sur le... Effectivement, la Banque de France est nationalisée partiellement en 1936, et après elle est nationalisée définitivement en 1945. Et pour tout ce qui est justement du crédit, quel rôle ça joue dans le capitalisme, on renvoie à une émission qu'on a fait avec Léon de Matisse sur justement l'argent comme anticipation de valeurs futures. C'est important quand même de comprendre ça puisqu'on est au cœur des problématiques actuelles sur la crise et sur la finance. Et puis on renvoie évidemment au livre La Grande Dévalorisation et puis aux différentes synthèses, présentations, vidéos qui ont pu en faire. Et tous les liens, on les trouve d'ailleurs sur l'émission de crise qu'on a fait avec Léon de Matisse.
Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, elle a aussi, on va dire, elle est, au niveau sociologique, il y a à la fois le choc, effectivement, du rationnement alimentaire, etc., qui peut justifier, on va dire, sur le plan rhétorique, le productivisme, restaurer la productivité de la France, etc. Après, si on regarde bien, en fait, la population était la même pendant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre, et finalement le modèle agricole antérieur avait la capacité de nourrir la France, puisque on est à un niveau de population égal. Et donc finalement, ça reste quand même un argument rhétorique qui permet, on va dire, le basculement dans le...
Mais
qui marche et qui est efficace. Et parallèlement, on va dire que la libération aussi génère un engouement vers le modernisme, le regard vers les États-Unis.
Vers l'URSS aussi pour la gauche.
Oui, vers l'URSS pour la gauche, on va dire. Ouais, le regard à droite et à gauche.
C'est ça.
Vers la modernisation et le productivisme génère un élan favorable. Bon, finalement, c'est juste que l'agriculture joue un nouveau rôle dans le capitalisme national à ce moment-là. Et notamment, là, en termes de... Justement, au niveau économique, on bascule du crédit que je décrivais tout à l'heure sur achat de terres, dans des logiques parfois juste patrimoniales même, et avance sur récolte. Même si ça, dans l'entre-deux-guerres, c'est déjà un modèle qui a beaucoup bougé, mais on bascule, on va dire, massivement vers des crédits de moyen terme pour l'achat de tracteurs et d'aménagement des bâtiments agricoles et une forte modernisation. Et ça va se traduire, on va dire, en chiffres. En 1950, on a 137 000 tracteurs. Et ça passe à 1 million en 1960. Donc en fait, en 10 ans, on a un mouvement, on va dire... massif
De tractorisation.
De tractorisation, avec du coup qui demande aussi d'avoir une surface minimum pour l'amortir, voilà, et qui aussi crée un rapport, on va dire, à l'agriculture un peu distincte, une dépendance au pétrole distincte, qui a l'avantage d'être, on va dire, infatigable par rapport au bœuf qui était utilisé avant, qui peut permettre d'abandonner les fourrages aussi pour le bétail et se concentrer sur des cultures exclusivement commerciales. Donc là, c'est un niveau d'intégration, on va dire, encore plus fort dans une logique marchande, capitaliste, effectivement, quoi. Et qui après va connaître plusieurs phases d'augmentation, on va dire, en capacité de puissance du tracteur entre 1950 jusqu'à nos jours, au point qu'on passe d'une unité, enfin voilà, qui peut cultiver 10 hectares avec un tracteur, jusqu'à une unité de travail, enfin un individu, un actif qui peut en cultiver quasiment 200 avec les tracteurs importants, enfin associés à d'autres technologies, mais
Aujourd'hui.
aujourd'hui, ouais.
Oui, on voit qu'il y a un mouvement et d'ailleurs ce qui va expliquer des phénomènes dont on va parler dans la partie suivante de l'émission, comme le remembrement et la concentration foncière
Ouais.
à partir des années 60, qui est un phénomène important, quoi.
Et qu'on ne peut pas dissocier du coup de la technique et de ce que ça implique, et du fait que voilà, on ne peut pas avoir un tracteur sur des petites surfaces,
C'est
ça n'a
ça.
fait aucun sens, quoi.
La technique n'est pas neutre, elle joue
Ah.
un rôle dans le capitalisme.
Ouais.
Et peut-être pour finir sur cette période, malgré tout, parce que là on a beaucoup insisté sur les transformations qui existent, malgré tout, ce qu'on peut observer, c'est que dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, il y a justement la paysannerie a réussi à se constituer en sujet politique et syndical, avec la création de la FNSEA. À la suite donc de la libération, qui sont donc des jeunesses agricoles catholiques de la JAC, qui sont des jeunes plutôt dynamiques, qui s'opposent, disons, aux gros agrariens des plaines de l'Île-de-France et du Nord, et qui vont essayer de promouvoir justement cette couche intermédiaire dont on a parlé tout à l'heure, et qui vont, eux, avoir beaucoup plus un réflexe. Voilà, modernisateur, ils essayent de se constituer en classe, quoi, entre guillemets. Et ils créent des structures syndicales, ils essayent de faire avancer leurs intérêts. Et ils vont, au cours de cette période, pas encore être majoritaires politiquement dans le monde rural, puisqu'ils vont être encore un petit peu pris. On va voir qu'ils vont exploser vraiment dans les années 60, où là, ils vont conduire à un pacte avec De Gaulle, quoi. Vraiment, c'est central.
Et
Mais ils
d'ailleurs,
sont.
la jeunesse agricole chrétienne, la JAC, là, va former la plupart des gens qui vont encadrer l'agriculture dans le cadre de la co-gestion. Donc, du coup, voilà, les présidents de syndicats, ou voire des gens qui vont même être ministres de l'agriculture dans les années 60-70, quoi. Donc, effectivement, elle a un rôle. Il y a aussi, mais encore plus marginal, là, beaucoup plus marginal, des mouvements de gauche, donc des syndicats communistes aussi qui se mettent en place, mais dans des espaces géographiques
Particulier, ouais.
circonscrits et particuliers, et qui prendront finalement pas une importance, enfin jamais une importance très grande, mais qui parfois ont une importance locale
Ouais.
forte,
Politique, ouais.
politique, voilà. Mais
Dans le
après,
sud, notamment, en Ariège et tout ça,
oui,
ouais.
voilà.
Mais c'est important de rappeler ça parce que ça joue un rôle dans la 4ème République politiquement. Parce que finalement, avec cette division de la paysannerie, donc en fait, on peut dire, il y a encore une petite paysannerie qui s'est progressivement appauvrie et qui, elle, pour le coup, effectivement, va pouvoir voter communiste. Souvent, c'est des petits paysans quand même. Ensuite, là, c'est très schématique, hein, il y a une couche plutôt de petits. Ouais, ces petits moyens paysans qui, eux, sont tournés vers la modernisation et qui, eux, vont plutôt aller vers la FNSEA. Et ensuite, il y a la troisième classe qui est quand même encore dominante, c'est un peu la bourgeoisie agrarienne qui, elle, est favorable au modèle des années 50, c'est-à-dire on exporte massivement du blé vers l'étranger, mais qui n'est pas forcément favorable à. Ou alors vraiment, il faudra le faire de manière bien à un marché européen agricole, Enfin, en tout cas, pas sous la forme uniquement d'un truc de libre-échange total, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup à y perdre, à être en concurrence avec l'agriculture allemande et tout ça. Et on verra que ça jouera un rôle quand même dans la genèse de la politique agricole commune dont on parlera dans la prochaine partie. Et justement, là, on va faire une pause musicale avant de rentrer dans les années
Les années 60,
1960.
la phase de modernisation intensive.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?